En fait, on a appris qu'avec un simple jeu d'écriture, on est capable de fabriquer des milliards. Ensuite, nous avons une conférence sur la finance et le travail. La semaine dernière, la finance et l'éthique. Et il nous a semblé super important de faire un focus sur l'écologie, malgré les milliards que les banques centrales et les banques sont capables de créer. Eh bien, l'écologie, comme la Terre, ben, c'est l'enfant délaissé. Voilà, donc la conférence a duré jusqu'à 1h45 à peu près. Après, il y aura 10 minutes de questions. Et voilà, donc bonne conférence. Et s'il y a des sandwichs, sont en vente là-bas. Donc vous pouvez vous lever tout de suite, acheter votre sandwich et revenir. Merci.
Le titre qu'on m'a donné, c'est l'environnement, l'enfant délaissé de notre civilisation. Donc j'ai pas du tout prévu de parler de finances. Mais oui, si vous êtes déçus, on peut en parler après pendant le quart d'heure de questions. Mais c'est prévu comme ça, très bien. Et je vais faire pire que ça, en fait, je ne vais pas non plus parler de civilisation parce que j'ai fait beaucoup de sciences politiques et en fait, plus on étudie un sujet, et moins on sait ce que ça veut dire, et je suis incapable de définir de façon un peu neutre ce que c'est qu'une civilisation. Donc je ne vais pas parler de civilisation, mais je vais parler d'écologie. Et en fait, je vais parler surtout d'écologie et de catholicisme, d'une part parce que c'est ce que je connais, en plus parce que le lieu s'y prête. Enfin, je précise quand même en passant que je ne suis pas en train de partir en croisade pour rétablir la civilisation catholique. C'est simplement que il me semble intéressant ici de parler d'écologie et de catholicisme et d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Je ne vais pas m'étaler sur l'état du monde parce que je pense que vous le connaissez et puis parce que c'est toujours un peu déprimant de revenir à la situation de pollution, de réchauffement, ou plutôt d'événements climatiques extrêmes et de continents de plastique, etc. Quand même, donc je fais le pari que vous l'avez plus ou moins en tête. Mais quand même, il faut prendre conscience qu'on est à une époque particulière où le monde se fissure de toutes parts, le monde à la fois social et puis le monde vivant de manière générale. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que vraiment on n'avait pas conscience de la fragilité du monde? Est-ce que vraiment on n'avait pas conscience que les actions qu'on menait avaient un impact sur le monde qui nous environne? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, il me semble que tout ce désordre-là, toute cette situation assez préoccupante n'est pas seulement un problème de connaissance. Peut-être que ça a été le cas à un moment donné, mais plus maintenant. Ça n'est pas non plus seulement un problème de gestion. Et d'ailleurs, ça n'est pas non plus seulement une question d'éthique, c'est-à-dire comment se comporter, comment réagir, comment régler cette crise, comment réduire le mal, etc. Mais que l'exigence fondamentale de cette période que nous vivons, elle est philosophique, elle est spirituelle, elle est religieuse en un sens. Donc là, je parle pas en mon nom propre, je me mets à l'école du pape François, que vous avez sans doute tous lu et relu l'encyclique Laudato Si, et sinon je vous le conseille. Et puis d'autres penseurs, je pense à Leonardo Boff, je pense au théologien protestant Jürgen Moltmann, je pense à Jean Baster, il me semble qu'un de ses livres est en vente ici, je pense à John Baird Callicott, etc. Donc tous ces penseurs qui voient la situation préoccupante à la fois écologiquement et socialement comme un problème qui est spirituel, philosophique et religieux, et qui éveille vraiment en nous ce qu'il y a de plus profond et de plus beau. Parce qu'en effet, c'est pas d'ajustement à la marge dont il est question, quoi. C'est pas de réorientation subtile et de peinture en verre dont il s'agit, mais il s'agit vraiment d'un alliage d'attitudes individuelles et puis de changements systémiques à la fois économiques, politiques et puis culturels, qui tous deux découlent d'un changement de regard sur le monde. Alors ça, l'encyclique Laudato Si le décrit très bien, et encore une fois, je vous invite à la lire. C'est un très beau texte, très simple, et pour autant très profond. Et je pense que c'est important de comprendre ce que c'est que ce changement de regard et comment est-ce qu'il peut être à la fois individuel, être de l'ordre de la conversion, et en même temps être la source d'actions collectives, voire d'actions politiques, voire de réorientation économique ou financière. Et, je crois que vous en avez parlé dans les trois conférences précédentes. Alors, la première question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que vraiment l'Église délaisse les questions d'écologie ? Est-ce que être chrétien, c'est se poser seulement maintenant la question de, tiens, un monde qui se dérobe sous nos pieds, ou est-ce qu'on avait mal compris quelque chose ? Alors, c'est en fait, l'Église a été assez durement accusée d'être même à la source de la crise environnementale. Il y a un article qui a fait date en 1967, qui a été écrit dans la revue très connue Science, qui est une revue scientifique très renommée, par un auteur américain qui s'appelle Lynn White Jr. Et dans cet article, Lynn White, qui est lui-même protestant, je crois qu'il est protestant.
Il est chrétien.
Il est chrétien, oui, ça c'est sûr. Et donc lui, il détecte vraiment l'origine de toutes ces déviations, etc. L'origine dans ce qu'il appelle une mentalité judéo-chrétienne. Et pourquoi ? Parce que pour lui, cette mentalité judéo-chrétienne est coupable d'avoir forgé l'image d'un homme qui est tyran de la création, avec un Dieu qui est complètement absent de la création, que l'on peut donc utiliser à nos propres fins, etc. Donc pour lui, il y a cette mentalité-là qui est à l'origine d'un capitalisme dévié et d'une anthropologie aussi déviée, et donc d'un utilitarisme vis-à-vis de la nature. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que, pour une partie, il a raison, dans le sens où l'époque moderne, et en particulier depuis les Lumières ou depuis Descartes, elle tombe largement sous le coup de cette critique-là qu'il fait à la civilisation, disons, judéo-chrétienne, même si je ne sais pas ce que c'est qu'une civilisation judéo-chrétienne, mais bon. Donc il faut reconnaître ça et peut-être chercher en nous-mêmes si on n'a pas, si on n'est pas coupable en quelque sorte de cette critique, coupable de cet acte qu'il fait. Je pense quand même qu'il faut prendre conscience de ce que ça veut dire, la mentalité judéo-chrétienne, et voir que elle n'est pas condamnable, mais au contraire que les déviances de l'époque moderne qui ont conduit à la crise écologique qui est quand même grave et dont il faut prendre conscience, sont une infidélité à cette mentalité judéo-chrétienne. Une espèce de renoncement à la tradition biblique et à la tradition chrétienne de manière générale. C'est-à-dire que c'est un renoncement à une tradition qui fait qu'on considère toute la création, et d'ailleurs y compris les hommes, comme des objets, voire des marchandises. Alors, me direz-vous, mais dans la Bible, on nous dit de dominer le monde. Alors, ok, on va revenir au texte. Est-ce qu'il faut dominer la création ? Donc, en effet, vous vous souvenez que dans la Genèse, il y a deux récits. Dans le premier récit de la Genèse, l'homme est créé après tous les éléments, après les végétaux, après les animaux aussi. Il est créé comme le sommet de cette création, et il est l'image de Dieu sur terre, et il est appelé à soumettre et à assujettir la création, et puis par ailleurs à s'y multiplier. Image de Dieu, c'est quand même intéressant de s'arrêter là-dessus. Image de Dieu, c'est important comme terme, d'abord parce que c'est le rejet de tout cosmothéisme où on serait amené à adorer tout ce qui compose le monde pour eux-mêmes. C'est-à-dire que interdiction d'adorer des images, nous sommes nous-mêmes images de Dieu, nous sommes les seules images de Dieu, et le monde n'est pas lui-même image de Dieu, parce que on serait peut-être amené à vénérer les choses en tant que choses et non pas en tant que représentante de Dieu. Partie du récit, mais il ne faut pas oublier déjà le reste du texte et puis ensuite toute la tradition chrétienne, une tradition qui a toujours affirmé que la création est bonne dans son essence parce que voulue par Dieu. C'est quand même une des conclusions du Concile de Latran en 1215. Et qu'elle est en relation directe avec son origine divine. Tout ça, c'est tout au Thomas d'Aquin, etc. Et donc que l'acte créateur, il peut être daté en quelque sorte, même si la relation au temps n'est pas très claire, mais il est aussi continu, et à chaque instant, et à chaque seconde, et chaque milliseconde, il y a une création qui est en train de se faire. L'acte créateur n'est pas fixé, mais continué. Et donc en cela, la nature, ou peut-être plus largement la création, est témoin du créateur. Donc ça c'est Bonaventure, c'est Vatican I, tout ça, donc je vous laisse nos textes fondateurs. Mais du coup, l'observation de la création permet d'inférer l'existence de Dieu, quoi. Donc il y a une vraie immersion de l'homme dans le monde pour être en lien avec le Créateur. Créateur qui d'ailleurs conclut des alliances avec l'homme. Et parmi ces alliances, on peut retenir celle de Dieu avec Noé, qui est particulière parce que c'est une alliance avec les hommes et avec toutes les créatures. Alors, l'alliance la plus aboutie, vous le savez, c'est l'incarnation de Dieu sur Terre en tant que créature, dans la personne du divin qui se fait homme et qui partage ce statut de créature. Et donc le Christ, qui est vu comme le sommet de la création, il nous rend clair ce que ça veut dire que toute puissance, et rend clair ce que ça veut dire que domination, puisque justement cette toute-puissance de Dieu, ou cette domination de Dieu sur le monde, devient toute-puissance d'amour, de façon très claire, si ça ne l'était pas encore. Donc l'homme, là, est confirmé dans son rôle de lieutenant, au sens propre, il tient lieu de Dieu sur Terre, et donc il est confirmé dans cette mission de gouvernance et de berger qui lui est octroyée, donc cette fois dans le deuxième récit de la Genèse, sur lequel insiste particulièrement le pape François dans Laudato Si. Il n'oublie pas le premier récit, mais il vient nous parler surtout du deuxième, où l'homme est appelé à cultiver et à garder le royaume de Dieu, et non pas simplement à le dominer au sens... Enfin, en tout cas, ça vient expliquer le terme de domination, qui n'est pas une domination comme un tyran domine. Voilà, ça me paraît important de revenir à ce texte-là pour comprendre ce que ça veut dire que... Être chrétien et dans le monde. Être chrétien dans le monde, c'est prendre conscience qu'il y a une communauté de créatures. D'accord ? Donc on a parlé de l'alliance de Dieu avec Noé et avec toutes les créatures, et que c'est une communauté qui est d'abord paisible et qui est d'abord sans violence. Alors, à partir d'un certain moment, Dieu semble accepter la violence, puisque justement dans l'alliance avec Noé, l'homme est autorisé à manger de la viande, ce qu'il n'était pas autorisé à faire au départ, à la condition de retirer tout le sang de la viande qu'il mange, donc c'est-à-dire de ne pas anéantir symboliquement la vie, hein, le sang est symbole de la vie. Donc il y a la tolérance d'une certaine forme de violence, mais il y a quand même une tendance vers une forme de paisibilité. Donc ça, c'est les textes fondateurs, mais ensuite, c'est le premier texte de la Bible, et ensuite ça s'étale dans toute la Bible, dans le Deutéronome, où est manifestée l'interdiction de faire travailler le bœuf le jour du sabbat, par exemple, où l'appel à Jonas de faire jeûner, pour sauver Ninive, de faire jeûner à la fois tous les hommes et toutes les créatures, ou Isaïe qui nous dit, mais dans la parousie, c'est-à-dire la fin des temps, le retour du Christ, qu'il ne présente évidemment pas. Le loup dormira avec l'agneau, l'enfant avec le cobra, etc. Donc il y a une visée d'une communauté de créatures dans la fin des temps. Et puis évidemment, tous les psaumes, on en a entendu un tout à l'heure, qui était très explicite sur le lien qui se fait entre l'homme, la création et Dieu, où les trois cohabitent et communiquent par le biais aussi de la création. C'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, donc qui porte à maturité, qui a accompli en quelque sorte l'Ancien, ce message-là, qui est un message de compassion universelle en quelque sorte, il est très clair. Alors, vous vous souvenez que dans l'évangile de Matthieu ou de Luc, le Christ appelle les disciples à aller évangéliser, à porter à proclamer l'évangile dans toutes les nations. Dans l'évangile de Marc, cette phrase-là, ce n'est pas exactement celle-ci, c'est porter l'évangile à toutes les créatures. Puis ensuite, on peut évidemment citer Jean et son Apocalypse qui annonce une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et donc il n'y a vraiment pas une distanciation, il n'y a pas un homme qui est comme ça, un petit peu un de son environnement naturel, et qui serait sauvé seul ou même en communauté. Il y a vraiment un salut qui est dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc comme s'il y avait un salut un petit peu cosmique quoi, du monde. Il y a un sort commun en fait entre l'homme et les autres créatures, un passage par la mort et une purification. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la démarche pour le salut soit exactement la même entre les hommes et les autres créatures, et que la vie consciente que nous avons et le destin particulier que nous avons en tant qu'humains n'est évidemment pas le même que un animal ou un végétal qui n'a pas cette démarche à faire, mais ça n'empêche pas que le salut est commun. Je passe sur tous les pères de l'Église, de Maxime le Confesseur, de Saint-Irénée, de Jean Scott Erigène, de Dan Scott, etc. Tous ces grands pères de l'Église ou penseurs de l'Église qui ont continué cette pensée-là sur une vision cosmique du monde et un Christ qui est venu sauver l'univers et pas seulement l'humanité. Dans toute cette période, et en fait jusqu'à la Renaissance, et même en fait jusqu'aux Lumières, il y a une insistance, enfin une évidence en fait, que Dieu se trouve dans les Écritures et dans un autre livre qui est le livre de la nature. Et qu'en fait on comprend la nature par les Écritures, mais on comprend aussi les Écritures par le livre de la nature. Ils peuvent être tous les deux contemplés, interprétés, etc. Donc vous voyez qu'en fait pendant deux millénaires, pendant peut-être 1800 ans, l'humanité occidentale, en tant qu'elle est chrétienne, quoi, a vécu dans cette conscience un peu évidente que on est en union avec le monde et que par le monde on est en relation à Dieu. Et qu'en fait tout ce qui s'écarte de cette vision-là devient hérésie. Qu'on pense au catharisme, qu'on pense au gnosticisme, qu'on pense au jansénisme, qu'on pense au manichéisme, toutes ces tendances-là ont été vues comme des hérésies. Et c'est bien que Saint François d'Assise, qui a longtemps été vu comme la figure qu'il fallait retenir pour se dédouaner d'une tendance un peu trop générale de coupure avec le monde, ben Saint François d'Assise en fait est une forme de vision un peu exagérée de quelque chose qui est d'une pensée qui est finalement assez assez commune. C'est pas du tout une personne qui fait exception. Alors elle fait exception par sa santé, par sa folie, par l'extraordinaire de son destin et de ce qu'il dit et de ce qu'il a vécu. Mais ça n'est pas, je veux dire, c'est pas une pensée qui est complètement à part. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a glissé vers une autre compréhension? Pourquoi est-ce que de cette habitation un peu de cette cohabitation fraternelle avec les autres créatures ou avec le monde, un monde habité et témoin de la présence de Dieu, pourquoi est-ce qu'on est passé à un catholicisme un peu plus détaché du monde? Alors c'est pas évident, c'est à la fois de la philosophie des religions et de la philosophie des sciences et de l'histoire et de la science politique aussi qu'il faut mobiliser. Mais en tout cas, vous savez comme moi que ça se fait au tournant des Lumières. Dans le milieu chrétien. Donc il y a deux mouvements qui se font de façon concomitante. Déjà, dans les milieux chrétiens, il y a un retour du dualisme. Donc, un dualisme entre l'âme et le corps, un dualisme entre le monde et Dieu, un dualisme entre le transcendant et l'immanent. Un dualisme qui a toujours existé. Saint Paul parle de la chair et de l'esprit, etc. Mais quand il parle de la chair, c'est pas le corps simplement au sens du biologique, c'est au sens de ce qu'il faut abandonner pour avoir accès à Dieu. Quoi. Donc c'est pas la chair au sens du corps. Et là, au tournant des Lumières, il y a vraiment ce retour-là d'une distinction entre corps et esprit, entre cité des dieux et cité des hommes. Et donc un retour qui n'est pas vraiment explicité, qui n'est pas enseigné, mais qui est accepté, qui est un peu dans l'air du temps, disons. Une complaisance avec ce dualisme-là, qui est une forme de retour de gnosticisme. Quoi. Donc ça, c'est la première tendance que j'ai personnellement du mal à expliquer d'où ça vient. Enfin, je ne me suis certainement pas assez penchée. Et puis, il y a un autre courant, qui est le courant porté par la science. Donc vous savez que c'est l'avènement de la science comme méthode au moment des Lumières. Et cette méthode-là, c'est une méthode d'objectivation du monde, c'est-à-dire de réification. Res, c'est la chose, donc de transformation du monde et de ce qui peuple le monde en chose. Donc de désanctification en quelque sorte. Ça, c'est la méthode de la science moderne à partir des Lumières, de réifier le monde, de désanctifier, donc de lui refuser toute origine transcendante. Et alors ça, pour une partie, une condamnation des chrétiens de cette tendance-là, en targuant cette méthode de matérialiste, etc. Mais en même temps, une forme aussi d'acceptation aussi, sachant qu'évidemment, idéalisme, donc le premier courant que je vous ai présenté, et puis matérialisme, finalement, arrive aux mêmes conséquences, qui est un monde qui n'est plus habité. Un monde qui n'est plus porteur d'une présence transcendante, qui n'est que chose. Vous connaissez les écrits de Descartes sur l'animal-machine, etc. Donc c'est vraiment une vision très, très mécaniste, en fait, du monde. Donc ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir que donc la déchristianisation du monde, elle précède toute la sécularisation, la laïcisation, la déchristianisation des humains. Quoi. Il y a vraiment d'abord un mouvement de déchristianisation du monde. Et qu'en fait, on a cru sauver la foi chrétienne en se repliant à l'intérieur de notre âme, dans notre intériorité, dans notre fort intérieur. Et en abandonnant le monde comme ça, en fait, une approche presque protestante d'une attente du royaume pendant un temps d'exil sur Terre. Quoi. Et puis évidemment, on ne s'est pas privé, nous chrétiens, de profiter d'une telle vision du monde pour aussi... utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources naturelles à nos propres fins, ou à des fins de transformation, ou à des fins de profit, ou ce qui n'est pas je ne suis pas en train de condamner, mais simplement de remarquer que cette émergence d'une conception du monde comme ressource, elle est tout à fait concomitante avec l'émergence de ces deux courants d'idéalisme et de matérialisme. Voilà. On pense quand même à la question qui est posée, c'est d'abord, évidemment, l'environnement qui n'est pas du tout conçu comme un environnement au départ, mais plutôt comme un environnement au sens de quelque chose qui nous environne et qui n'est pas nous, et qui est statique, et qui n'est pas historique, et qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas en relation à nous, mais qui est plutôt création et monde vivant, en fait, hein, tout simplement. Non, c'est pas du tout l'enfant délaissé d'une civilisation, si tant est que par civilisation on entend tradition chrétienne. C'est au contraire quelque chose de très présent, mais qu'il y a un tournant au moment de la période des Lumières et au moment de l'avènement de la science moderne, où là, oui, en effet, bah, il y a une séparation qui se fait et qui nous a fait oublier toute notre tradition qui ne commence pas à la Révolution française. Alors, quelle est la tâche aujourd'hui ? La tâche aujourd'hui, elle est à la fois très belle et la tâche aujourd'hui, c'est pas seulement de retrouver un moyen de mieux utiliser les ressources ou de moins abîmer le monde ou un moyen de trouver des solutions techniques à un monde qui est de plus en plus pollué, de plus en plus aussi divisé socialement, etc. Ça n'est pas, encore une fois, je reviens au début, ça n'est pas un problème de connaissance, ni de gestion, ni même d'éthique, mais un problème vraiment, enfin un problème, une situation où le regard et la vision intérieure a un rôle particulièrement important. Et donc le rôle aujourd'hui des chrétiens, c'est de proposer une écologie qui n'est pas la plus populaire, au sens de la plus présente dans le monde. C'est de recristianiser la matière, en fait. C'est de revenir à une vision du monde où la nature n'est pas inerte, la nature n'est pas indépendante de notre propre salut. La nature n'est pas nature au sens où elle est distincte de la culture. La nature est d'abord création, elle est ce monde dans lequel nous vivons et elle est baptisée comme nous, elle est sanctifiée comme nous. Alors pas comme nous au sens de au même rang peut-être, mais comme nous au sens de avec nous. Et donc là, je pense qu'il y a une évangélisation à faire. D'autant plus que vous l'avez peut-être perçu, si vous fréquentez un petit peu les mouvements écologistes, il y a une vraie soif de compréhension du sens de la vie, de compréhension, une soif d'habiter le temps qui nous est donné de façon sensée, etc. Chez les écologistes, il y a une quête du temps retrouvé, une quête de lieux qui soient conviviaux, une quête d'une vie qui a du sens. Et que du coup, nous avons vraiment un message à porter là et une écologie espérante, en fait, à proposer. Alors évidemment, je le dis pour la troisième fois, lisez Laudato si, si ce n'est pas encore fait. Lisez, parce que vraiment, le pape a compris beaucoup de choses. Il n'est pas tout seul, mais... lisez aussi donc Jean Baster, qui est le deuxième livre que j'ai proposé. Parce que lui aussi, donc il est décédé il y a pas si longtemps, mais il avait tout compris avant l'heure. Et en lisant Laudato aussi, et peut-être aussi en lisant Jean Baster, mais je serais curieuse de savoir si vraiment la situation catastrophique qui s'offre à nous vous laisse sans espérance. Alors, je pense que vous faites la distinction entre l'espoir et l'espérance. Certes, c'est assez difficile de voir comment on va s'en sortir. Mais l'espérance, qui est donc la croyance que nous sommes sauvés malgré tout et qu'il y a quand même une coopération à faire, que tout ne dépend pas de ma petite personne pour sauver le monde, nous rappelle que certes le défi est grand, en fait il est gigantesque, il est assez affolant. La vision qui se présente là, elle est unique de retrouver le sens de ce qu'être humain veut dire, de ce qu'être chrétien aussi veut dire, parce que le rôle des chrétiens, c'est ni d'être des puritains en se disant mais il y a un monde qui court à sa perte et donc moi je m'en retire et prends des douches courtes et je change mes ampoules et je suis content avec ce que je fais moi et le monde, espérons que tout le monde fera comme moi, mais finalement moi au moins je fais des choses comme il faut, et de se satisfaire de ça. Il ne s'agit pas non plus évidemment de se mêler à la cohue et de n'en faire qu'à sa tête, mais bien d'être des ferments d'un changement de monde, d'un changement de mentalité, ferment d'un monde nouveau. Et ce monde nouveau, finalement, c'est face à la nature, retrouver le regard du Christ, en fait, qui est rédempteur des hommes, mais rédempteur de toutes choses aussi. et l'heure du salut du monde, du salut qui est humain, mais qui est aussi un salut de la création. Et donc c'est proposer une écologie qui n'est pas seulement une sauvegarde du monde, sauvegarde du monde, c'est le but de l'écologie, hein, se dire il faut quand même qu'on vive, que les générations futures puissent vivre sur cette planète, donc lutter contre le désastre qui se profile, donc avoir une gestion plus intelligente, etc. Mais proposer une écologie qui soit source de sauvegarde et de salut, c'est-à-dire une approche en fait spirituelle, qui soit un vrai passage du monde vers le Père. Et donc ça nécessite un changement de regard. Et le pape François, dans Laudato aussi, a une parole qui est assez peu claire en fait sur le passage entre ce changement de regard qui est d'abord une conversion individuelle, passage à la dynamique collective, etc. Je me permets juste de... Et donc, quand on lit, on se dit, bah oui, mais moi, je veux bien changer de regard, mais enfin, le monde, c'est pas du tout le chemin qui est en train de prendre le monde, donc finalement, ça ne sert à rien, autant continuer, etc. Je me permets quand même de dire que, depuis la sortie de Laudato Si, donc ça fait 4 ans et demi, moi qui travaille au CERAS, qui est donc un... qui est un centre qui a pour ressource la doctrine sociale de l'Église et qui est forcément très, très habité et très chamboulé par la publication de Laudato Si. On reçoit beaucoup de demandes de formation à Laudato Si, à l'écologie intégrale qui est proposée. Et en fait, on n'a pas reçu un pic de demandes au moment de la sortie et puis ensuite plus rien. Au contraire, c'est vraiment une demande croissante et une préoccupation qui se fait croissante. Et donc, devant cette lecture où on se dit il y a un changement individuel à faire, mais comment passer au collectif, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience, avoir confiance dans le fait que le collectif se crée presque de lui-même, et avec nous si on veut bien y participer, mais, par stimulation réciproque et par refus d'un monde qui va à sa perte, quoi. Le passage d'après, et c'est vraiment très clair dans Laudato aussi, après l'action collective, qui peut être associative ou bénévole, ou même politique au niveau local, c'est le niveau politique national et international. Alors je vous lance un appel, investissons-nous, pour que justement ce changement de regard que peut-être nous sommes en train de vivre, en tout cas je pense auquel nous sommes appelés, ne crée pas uniquement des bulles, mais soit vraiment l'occasion d'un changement politique global. Et c'est aussi un appel, et là aussi je reprends l'ordonnancement qui est proposé dans Laudato aussi, c'est aussi un appel du coup à réviser les priorités du monde économique. Alors là, c'est peut-être plus ce que vous vivez au quotidien ici. Une priorité qui est d'abord celle de prendre soin dans notre travail des autres et de ce qu'il appelle la maison commune, donc de la terre, et que donc le travail soit ordonné à ce bien commun, et que de cette visée-là découle tout le reste, l'exigence de profit par exemple d'une entreprise, l'organisation des travailleurs entre eux, l'organisation de l'entreprise tout au long de sa chaîne de valeur, que toutes ces choses-là soient ordonnées à l'exigence première qui est celle du bien commun élargi au bien commun humain, mais aussi au bien de toutes les créatures et au salut du monde. Voilà. Je vous propose un temps un peu long pour des questions, donc je vous propose que vous soyez un peu franc et que vous me disiez que j'ai dit n'importe quoi pour qu'on puisse vraiment discuter.
Qui va commencer? Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Une question simple, c'est concernant, vous avez parlé du monde déchristianisé, de cette nécessité de recréer, c'est pas vraiment ce qu'on voit aux médias ou n'importe où. Ma question, c'est comment faire pour porter ce langage une diffusée de manière large, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un intervenant qui va porter cette parole, sera pas forcément écouté ou sera un peu. Ou c'est pas. Enfin, voilà, on va se rire de lui. Quoi. Donc, voilà, ma question, c'est vraiment sur les moyens à mettre en œuvre pour propager ces idées-là.
Je réponds, Anna. Okay. Bon, bah ça, c'est une bonne question. Hein. En fait, déjà, je pense qu'il faut, il faut pas être trop bête et se dire qu'il y a d'abord une parole forte à rassembler, que la parole forte, elle est d'autant plus forte qu'elle est collective. Donc, il y a d'abord des gens qui peuvent être potentiellement convaincus à qui parler. C'est pas forcément d'abord aller voir ceux qui sont complètement pas d'accord. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire ici, en discutant et en disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser là. Et ensuite, une parole collective, elle devient nécessairement politique. Et elle est entendue en tant qu'elle est, elle fait partie des opinions politiques de la sphère publique. Donc c'est pas un homme qui crie dans le désert, mais c'est un groupe de personnes, et ce groupe de personnes existe déjà et grossit chaque jour. Ensuite, sur la façon de parler, je pense aussi que bon, on n'est pas à une époque où dire le Christ va sauver le monde est forcément audible partout. Par contre, il y a encore une fois dans les mouvements écologistes, il y a une sensibilité très forte aux questions de sens, etc., comme je le disais tout à l'heure, et que même parmi ceux qui ne sont pas ouvertement écologistes ou qui ne le sont pas encore ou qui n'ont pas forcément conscience de la gravité de la situation, parler de ces questions-là aussi, c'est-à-dire parler de l'écologie pas seulement en termes de contraintes ou de peur ou d'horizon vers un monde qui est en train de s'effondrer, donc de fin du monde, etc., parler plutôt d'opportunités, d'espérance, en des termes qui sont pas forcément chrétiens mais qui peuvent toucher. Je pense que c'est une chose importante à faire parce qu'il y a une dérive possible en fait très forte de l'écologie comme facteur dépressant, dépresseur, dépressif. Et donc du coup comme facteur en fait de paralysie et d'inaction. C'est ça, la collapsologie, c'est un peu ça, c'est de dire, ben, en fait, le monde s'effondre, et donc du coup, la seule chose à faire, c'est commencer à créer des petites communautés qui seront prêtes à vivre l'effondrement. Je pense qu'il faut, alors pourquoi pas, mais il faut aussi se dire comment est-ce que collectivement, on va se poser la question de l'unité entre justice sociale et justice environnementale, comment est-ce que collectivement, on va essayer d'agir pour limiter les dégâts aussi, et comment est-ce qu'on va se demander... joyeusement ce que ça veut dire qu'être humain. Donc voilà, donc rentrer par cette brèche-là qui n'est pas forcément ouvertement chrétienne, même si elle l'est. En fait, ce que le pape François fait dans Laudato Si, c'est, donc il a 5 ou 6 chapitres, le chapitre 1, c'est une reprise de toute la littérature scientifique sur l'état du monde. Donc il nous fait très peur. À la fin du premier chapitre, on se dit « Ok, ça c'est une question vraiment importante et j'ai hâte de savoir ce qu'il va dire pour la suite parce qu'on ne peut pas ne pas se poser cette question. » Et c'est un peu insupportable parce que c'est à coup de chiffres et de rapports et tout ça, mais ça fait prendre conscience qu'il est temps d'agir. Et là, à partir de là, peut s'élaborer un début de réponse qui peut être entendu du coup. Question là, non ?
Dire deux mots sur l'enfance oubliée.
L'enfance oubliée, je viens vous préciser par contre la question.
Ah, c'est-à-dire c'est le thème un peu de...
Oui, oublié de notre civilisation, oui.
L'enfant oublié de cette économie aujourd'hui.
Vous voulez appuyer sur le mot enfant, c'est ça, le...
Vous avez partagé notamment autour de l'espérance et de ce en quoi l'écologie chrétienne peut se démarquer d'une écologie populaire. Forcément peut-être une question, mais peut-être un commentaire. En lien avec la réponse que vous venez d'apporter par rapport aux moyens d'aller à l'encontre de voir un monde qui se déchristianise. Je vois une Europe qui se déchristianise malgré plusieurs siècles, voire millénaires. Je vois l'Occident de façon générale qui se déchristianise, mais même déjà le dernier synode de l'Amazonie avec toutes les requêtes qui ont été faites par rapport à la première niveau de l'ordination, on donnait de penser qu'il il y a encore des peuples qui veulent, qui sont employés à rechercher des moyens peut-être pas très orthodoxes. Quand je regarde vers les pays un peu plus du sud, je vois relativement fervente, fougueux. Et d'un autre côté, au niveau de l'écologie, notamment de l'écologie intégrale, l'écologie du pape François, j'ai beaucoup entendu parler de cette option préférentielle avec ces communautés plus fragilisées qui sont la création. Et même aussi au niveau de cette lutte contre la déchristianisation, moyen de se laisser imprégner, selon moi, par leur témoignage.
Ce que je vais vous dire. Est-ce que je commence par celle-ci? Cette question, parce que du coup je prends conscience que j'ai pas été claire. En fait, donc il y a d'une part une déchristianisation de l'humanité qui est la sécularisation, etc. Ça, je sais pas si c'est un mal, mais c'est comme ça. Mais quand je parle de déchristianisation du monde, c'est que dans l'œil d'un chrétien, le monde n'est pas peuplé de créatures qui sont porteuses de l'image de Dieu, ou qui ont un germe de Dieu en elles. Donc c'est dans l'œil d'un chrétien, le monde est déchristianisé, ce qui est différent de la déchristianisation de l'humanité. D'accord ? Et ce que je disais, c'est que la déchristianisation du monde, elle précède la déchristianisation de l'humanité. Enfin, d'abord, on a commencé à ne plus voir le monde comme un lieu d'habitation de Dieu. Et ensuite, ce n'est pas forcément une conséquence d'ailleurs, c'est une corrélation comme ça, chronologiquement ça s'est fait comme ça. Et ensuite, il y a une déchristianisation de l'humanité. Ensuite, sur ce que vous dites, sur quoi ? Sur l'option préférentielle pour les pauvres. Donc ça, c'est un concept, enfin c'est un des principes fondateurs de la doctrine sociale qui est venu plus tardivement que les autres parce qu'il vient d'Amérique latine, mais qui a été reconnu par Jean-Paul II comme un des principes clés, par Jean-Paul II, je crois. Et en fait, dans le contexte de crise environnementale, il est particulièrement important, d'une part, parce qu'il nous fait prendre conscience que les personnes qui sont les plus précaires, à la fois socialement, économiquement, culturellement, sont aussi celles qui sont les plus touchées par les désastres environnementaux, et que donc il y a une option préférentielle pour les pauvres à deux niveaux, presque. En fait, c'est comme dit Éloi Laurent, qui est un économiste que vous connaissez peut-être, les personnes les plus précaires sont souvent des sentinelles de l'environnement. En fait, ce sont elles qui s'organisent collectivement pour lancer un cri au monde, soit de façon juridique, soit de façon autre, mais en tout cas pour dire, là, il y a un désastre écologique qui nous touche aussi socialement, parce que, justement, nous sommes le fait que nous soyons défavorisés socialement nous le fait sentir de plein fouet. Et ensuite, troisièmement, c'est aussi prendre conscience que l'option préférentielle pour les pauvres, c'est aussi étendre la notion de pauvre à tous ceux qui sont délaissés, à tous ceux qui sont laissés pour compte. Quand le pape François parle de culture du déchet, c'est-à-dire d'une culture dans laquelle on utilise et on jette, mais cette culture du déchet, elle transforme aussi bien les hommes que les autres êtres vivants en choses que justement on peut utiliser et jeter, et donc en déchets. Et que donc l'option préférentielle pour les pauvres, elle s'élargit. C'est les pauvres au sens de ceux qui sont délaissés et qui sont humains, mais c'est aussi tout ce monde en fait qu'on considère bon d'utiliser et de jeter sans lui accorder une valeur intrinsèque. Voilà. Je n'ai pas sans doute pas répondu à la question. Et il y avait une question sur l'enfance. En fait, moi j'ai compris enfant délaissé, expression, qu'est-ce que c'est le mot expression
consacrée.
Oui, expression consacrée. Pour dire...
Parent pauvre.
Parent pauvre. Mais là, on m'aurait dit, mais alors le parent. Mais et donc, j'ai pas conçu qu'il fallait parler d'enfance principalement. Quoique, du coup, la seule pirouette que je trouve, c'est que c'est ce changement de regard, c'est sans doute un regard d'enfant, en fait, ouais, parce que c'est un regard émerveillé sur le monde. Mais... reçoit avant de se dire ce qu'il va pouvoir en faire, mais là je fais juste une pirouette et j'avoue que je... Voilà, j'ai pas...
Oui, bah, merci. Je suis protestant, alors de temps en temps, lorsque vous entendez, j'entends beaucoup parler des catholiques, alors je voudrais deux questions qui sont autant de convictions. Première question, est-ce qu'il n'y a pas dans les autres traditions chrétiennes des orientations à souligner? Je pense par exemple aux orthodoxes, aux Amish par exemple. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une piste, des pistes à redécouvrir à travers ces traditions-là?
Mais oui, mais alors merci, parce que les catholiques ont été très très en retard, hein, pendant très longtemps.
Par rapport aux orthodoxes, c'est clair.
Par rapport aux orthodoxes, et même par rapport à une certaine branche du protestantisme. Ouais. Pas tout, mais...
Et la deuxième question, c'est j'ai pas entendu quelque chose qui pour moi est une conviction très forte, c'est j'ai pas entendu parler de reconnaissance. Reconnaissance pour le monde, reconnaissance pour le fait de ce qui nous a été donné. Et manifestement, si on n'apprend pas à dire merci, et à apprendre autour de nous à dire merci, ben, il y a quelque chose qu'on ne fera jamais ensemble. En fait, l'individualisme, le scientifisme, etc., c'est aussi de dire « je peux me débrouiller par mes propres moyens ». Mais c'est une façon aussi de dire « j'ai à dire merci à personne ». Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière, parce que c'est une clé avec qui peut se traduire. Alors, dernière chose, mais c'est presque une incidence, pour moi, les oasis de transformation collective,
ah, oui.
Justement, on dit merci ensemble et on fait les choses ensemble.
Oui, oui, merci. Bon, je réponds rapidement. Oui, pour l'inspiration d'autres traditions, alors principalement protestantes et orthodoxes, même s'il y a peut-être une inspiration aussi, bah, évidemment, bouddhiste, et puis une inspiration peut-être soufie. Ou... D'ailleurs, il cite un maître soufi et il cite énormément le patriarche Bartholomée. Donc orthodoxe. Et oui, alors il y avait des bribes de prise de conscience écologiste depuis les années 60 ou 70, plutôt 70, dans les encycliques catholiques, mais ça n'empêche que cette mise en cohérence globale de ce qu'être chrétien veut, ce qu'être chrétien veut dire, et de la responsabilité que nous avons dans notre rapport au monde, ça c'est nouveau et c'est... Et c'était avec retard qu'on s'est prononcé là-dessus. Donc oui, la reconnaissance. Oui, alors le pape François parle beaucoup de gratuité. Je pense que c'est un peu la même chose, c'est de savoir recevoir les choses de manière non monétarisée, non comptabilisée. Et d'ailleurs, donc moi je fais ma thèse sur le travail. Le pape François insiste beaucoup, c'est pas nouveau, il n'est pas du tout le premier à le dire, mais il insiste énormément sur l'importance d'un temps de repos, qui est le même temps de repos qu'a pris Dieu au moment de sa création, qui est le moment où on regarde ce que l'on a fait et où on se rend compte qu'on ne l'a pas fait uniquement par nous-mêmes, et on peut rendre grâce et on peut justement remercier pour ce que l'on a reçu et pour toutes ces choses qu'on n'a pas faites par notre propre volonté uniquement. En tout cas, il y avait une coopération. Quoi. Donc ça, je pense que ça va exactement dans ce sens-là.
Vous avez parlé à un juste titre donc de la naissance de la science moderne. Alors moi, ça me fait penser à une époque où la vision du champ, la vision du monde, on passait d'un monde géocentrique à un monde héliocentrique. Et donc ça s'est fait par l'intermédiaire de grands personnages comme Galilée. Et l'Église, bon, on le sait, n'a pas bien compris tout de suite. Et ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas à notre époque, aujourd'hui également, en train de changer de vision du monde, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde héliocentrique à un monde beaucoup plus complexe, où la Terre est finalement un monde fini dans une immensité galactique, et où l'écologie prime par rapport à l'économie, devrait primer par rapport à l'économie, en tout cas. Prends par exemple des idées de l'américain Lester Brown, qui dit qu'on vit une nouvelle révolution copernicienne écologique, en quelque sorte. Donc voilà.
Alors là, je vous invite à lire Bruno Latour, qui est bien connu, qui est parfois compliqué à lire, et qui... Mais il y a deux livres qui sont les plus simples à lire, c'est Face à Gaïa, je sais que le titre peut faire... qui est vraiment intéressant, qui est simple à lire parce que c'était des conférences et il est bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Ou Atterrir, qui est son dernier livre, qui est très simple. Euh, et, Et puis, bon, politique de la nature, mais qui est un peu plus complexe. Et dans tous ces livres-là, vraiment, on comprend qu'il y a eu une révolution copernicienne où le monde est devenu infiniment grand, on n'était plus le centre, c'était un décentrement, un changement vraiment radical de vision du monde. Et puis, il y a eu la prise de conscience écologique qui a un retour à ce qu'il appelle le monde sublunaire. Donc, en dessous de la Lune, il y a tout cet espace que nous habitons et qui est en fait pas le centre, mais qui est là où nous habitons. Et dans Où atterrir, il insiste vraiment sur l'ancrage territorial en fait, des solutions. Et nous vivons certes dans un monde complexe et interconnecté et globalisé et tout ce qu'on veut, mais où il y a quand même à habiter le monde.
Quand on parle de monde sublunaire, on revient à finalement, c'est un peu paradoxal.
Mais qui m'arrière, parce que on reste conscient que le monde est complexe et interconnecté et dont on n'est pas le centre. Mais c'est une question de l'attention sur cette partie-là.
Je pose ma question et puis on voit là-bas. Déjà, je peux témoigner que ce matin encore, j'ai vu un jeune qui sortait d'école, qui arrive pour essayer de trouver un job ici. Et donc, l'orientation de son choix, c'est en vue d'une préservation de l'environnement au sein du monde du travail. Donc, il y a une prise de conscience parmi les jeunes et qui viennent booster et les entreprises et le monde politique. J'ai quand même une question, c'est qu'actuellement, alors c'est un peu différent du sujet de la finance, mais actuellement il y a une révision de la loi de bioéthique à l'Assemblée nationale et au Sénat, un sujet dont on entend très peu parler ces jours-ci, mais parmi les arguments qu'on entend, très peu sont liés à la question de l'écologie humaine. Mmh. On a la dimension de l'attention à l'enfant dans des discours un peu psychologiques, mais les personnes écologiques que vous rencontrez, ils ont... et qui ne sont pas chrétiens, est-ce qu'ils entendent que là, il y a une réelle question, peut-être moins sur la question de la PMA, mais quand même, et ensuite sur la recherche sur l'embryon.
La première question, c'était sur c'est vraiment aussi, ça fait partie de l'option préférentielle pour les pauvres, quoi, d'entendre que ceux qui vont un petit peu galérer sur le marché du travail demain, ils ont une parole forte et sensée, et que ça vaut le coup de les écouter. C'est la loi bioéthique. Donc le pape François, il préfère parler d'écologie intégrale que d'écologie humaine, parce qu'il lie vraiment sociale, bioéthique, environnementale, et puis culturelle, économique et tout ça, et puis spirituelle. Hein. Mais donc le bioéthique est inclus dedans. Lui, c'est pas sa marotte, il en parle moins que d'autres papes. Mais c'est sûr qu'il nous dit... C'est absurde de vouloir préserver la vie d'un ours polaire si on ne préserve pas la vie d'un embryon, quoi. Les deux sont vraiment liés, et dans les deux cas, c'est une attention à la vie, et justement recevoir la vie comme un don. Et alors, il y a une tradition en France de l'écologie qui est placée plutôt du côté de la gauche, mais pas n'importe quelle gauche, une gauche plutôt progressiste sur la question des mœurs, et où du coup ces questions-là sont réglées de façon presque évidente, mais c'est de moins en moins le cas, justement parce que les écologistes, je pense, sont de plus en plus habités par un certain regard sur le monde, quoi. Et c'est pas seulement une prise de conscience et une peur et une vision d'un monde sous contrainte, mais aussi une volonté de réhabiter le monde de toutes ces puissances d'agir, on pourrait dire, et donc aussi un respect de la vie de manière générale. Et donc il y a rarement une réponse claire en disant ben non, je suis contre ça parce que c'est difficile, c'est socialement marqué, c'est un débat houleux, etc. Mais il y a vraiment de plus en plus une question qui est vue comme complexe et difficile, et en fait la réponse n'est pas évidente, justement au nom du respect de la vie, quoi. En conflit aussi avec les droits des femmes, etc. Donc, c'est des combats qui sont menés de façon simultanée et qui rentrent parfois un peu en conflit et dans le même camp politique, donc c'est pas clair.
Quelle attitude possible pour les chrétiens? Moi, j'en vois trois. Je vois d'une part la dimension prophétique, c'est-à-dire quand on, dans le sens le prophète Amos, hein, on a eu il y a quelques semaines, juste au moment des nuages de Lubrizol. Le texte du jour, c'était justement sur le prophète Amos. Et je pense, par exemple, le fait que les 10% des Français les plus riches émettent à peu près 9 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres, on retombe bien là sur l'attitude, la priorité évangélique aux plus pauvres, qu'est-ce qu'on en fait en matière d'écologie. Donc ça, c'est la dimension prophétique. La deuxième dimension, c'est quelle attitude on peut avoir par rapport à la notion de sobriété heureuse. Je pense par exemple à la fin de Laudato aussi, en groupe, donc on avait étudié, et on se posait la question, l'attitude par rapport au voyage en avion. Bon, ça semblait un peu insoluble pour la génération des plus de 70 ans, pour qui le voyage en avion, c'était le progrès, la découverte et tout. Et depuis, il y a eu la Suède, un autre mouvement, en montrant que collectivement, il y a des gens qui peuvent réfléchir autrement et dire, bah, il faut qu'on renonce au trajet court en avion pour une politique du train, et ainsi de suite. Donc là, c'est quelle attitude des chrétiens par rapport à ça. Et enfin, moi, je suis de la génération de René Dumont, donc l'utopie ou la mort vers 1970. Et donc, je suis un petit peu, je me sens parfois, je travaille au ministère de l'écologie, je me sens un petit peu comme les insurgés du ghetto de Varsovie, qui savent qu'il faut se battre, mais qui se disent, on a peu d'espoir quand même d'être gagnant. Donc, par rapport à cela, quelle peut être l'attitude, les différentes attitudes des chrétiens?
Oui, je réponds juste sur la dernière. L'idée d'une écologie chrétienne, c'est pas viser, c'est viser ni une sauvegarde tout court sans salut, ni un salut par nos propres moyens. Et du coup, et encore moins individuellement. Et donc oui, alors oui, évidemment, moi, j'ai beau essayer de réduire ma consommation et de ne pas prendre l'avion et de parler le plus possible d'écologie, mon impact sur la crise écologique, elle est quasi nulle. Oui, c'est peut-être la même chose que de se battre sans savoir si on va gagner ou pas, mais c'est plutôt se dire que la seule attitude possible dans cette crise, qui n'est pas une crise en fait, parce qu'une crise c'est passager, mais dans cette situation difficile, la seule position possible, c'est de collaborer avec Dieu pour vers un monde qui ne court pas à sa perte, quoi. Indépendamment de savoir si on le sauvera ou non, parce qu'encore une fois, c'est pas à nous de savoir ça, quoi. C'est simplement la seule option possible. Il se trouve que c'est une option joyeuse, il se trouve que c'est une option pleine d'espérance, et il se trouve que c'est une possibilité de renouer avec le sens, avec une façon d'habiter, etc. Mais alors sur l'utopie, il y a certes ce texte-là, mais moi je suis pas mal habitée par un texte de Ricoeur qui s'appelle L'utopie et le réel. Lui aussi, l'importance de l'utopie pour se mettre en action, mais où il nous rappelle aussi qu'une utopie ne sert absolument à rien si on ne donne pas aussi les premiers, enfin, une certaine idée des premiers pas à accomplir. Et qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir une espèce de visée où on se dit de toute façon on n'y arrivera jamais. Mais il faut aussi se dire ben, concrètement par quoi ça commence et avec qui et pourquoi, etc. Et que moins désespérant de penser des choses comme ça.